Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Baptiste Antoine.
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Il lui aura fallu 45 ans. 45 ans pour raconter l'indicible, l'accident, l'ambulance, l'hôpital, les gendarmes. Et ensuite l'annonce de la mort, l'attente de l'arrivée des proches, la veillée funèbre, l'enterrement. Et puis le deuil, l'enquête, le procès, mais aussi le souvenir, la difficulté de continuer à vivre après la perte, l'impossibilité de tourner la page et la nécessité d'y revenir, donc 45 ans après. Sur plus de 300 pages, Jean-Louis Tripp raconte comment lui et sa famille ont vécu et continuent à vivre et à revivre cet événement du 5 août 1976, quand sous le cagnard breton, un chauffard emporta dans sa fuite la vie de Gilles, son petit frère, âgé de 11 ans. Un récit haletant, précis et émouvant, un récit universel surtout. Le petit frère est paru aux éditions Casterman, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Jean-Louis Tripp.
Bonjour.
Pourquoi cet album 45 ans après ?
Eh bien, je n'en sais rien. Je sais quel a été le déclencheur.
Il y a eu un déclic.
Oui, il y a eu un déclic. Il y a eu un double déclic d'ailleurs, parce qu'en fait, à l'été 2019, au printemps 2019, j'ai une amie à Montréal, où j'habite, qui a perdu son frère, qui avait 29 ans, brutalement, une rupture d'anévrisme. Et l'été d'après, donc l'été 2019, il y a eu un fait divers en Bretagne, et qui ressemblait étrangement aux circonstances de la mort de mon frère, c'est-à-dire un chauffard avec une passagère à bord qui fauche deux gamins, qui les tue, qui s'en va. Voilà. La conjonction de ces deux choses a déclenché un processus. Et, bon, moi, j'ai une théorie, c'est que la mort de quelqu'un qui n'aurait pas dû mourir, quelqu'un voilà, dont ce n'était pas l'heure, clairement, qui n'avait pas l'âge, qui n'avait pas... Bon, voilà. C'est une expérience qui est impartageable. En fait, si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir réellement ce que c'est. Ce n'est pas comme de perdre ses parents ou ses grands-parents qui ont âgé ou qui ont quelqu'un qui a eu une maladie. Voilà. Là, c'est vraiment très, très brutal et c'est d'une seconde à l'autre. Et donc, quand des gens dans mon entourage, heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça leur arrive, je leur propose toujours mon écoute en leur disant, moi, je sais ce que c'est, donc si tu veux en parler, je peux t'écouter. Et quand je suis revenu à Montréal cet été-là, enfin, à l'automne, je me suis entendu dire à mon ami, écoute, je vais faire un bouquin sur la mort de mon frère.
Vous n'y avez jamais pensé avant ?
Jamais.
Jamais, c'était hors de question. Vous n'avez même pas eu l'idée,
j'avais même pas pensé.
Mais donc ça veut dire qu'au fond de vous-même, vous n'aviez jamais pensé un jour dessiner cette histoire, exprimer ce que vous ressentiez, vous et votre entourage immédiat, à travers ce que vous savez faire, c'est-à-dire à travers le dessin.
Jamais. Vraiment, c'était... D'ailleurs, moi, je ne pensais même pas, j'en parle dans le bouquin à un moment donné, je ne pensais même pas avoir vécu quelque chose de traumatisant. C'est-à-dire qu'on avait vécu le deuil comme chacun de son côté, parce que la famille était un peu dispersée aux quatre coins de la France. Moi, je l'avais vécu un peu tout seul à Paris. On se débrouille, quoi. Je veux dire, on se débrouille. Puis après, j'ai vécu. Moi, j'avais 18 ans à l'époque, donc j'avais une vie à vivre quand même. Et puis, on n'en parlait pas. Donc, c'était quelque chose que... J'ai été très surpris, parce que début d'année 2000, je suis tombé sur un truc qui s'appelle l'EMDR et qui est une espèce de méthode un peu parallèle à l'hypnose qui est très efficace pour soigner, pour travailler sur les traumatismes. On utilise ça avec les gens qui ont fait la guerre ou les enfants qui ont vécu des bombardements, des trucs comme ça.
Il y a une scène dans
l'album qui parle de ça. Et quand j'ai fait ce truc-là, un peu par curiosité, parce que moi, je n'avais pas le sentiment d'avoir vécu un traumatisme, encore une fois. Quand j'ai fait ça, tout de suite, l'image qui s'est imposée, c'est une route noire. C'était tout noir. Puis j'ai commencé à voir qu'il y avait de la matière. Je me suis dit, mais c'est une route. Et là, tout d'un coup, c'est devenu rouge. Et là, j'ai fondu l'ampleur. Donc, je me suis dit, OK, bon, il y avait...
L'explication était tellement évidente.
Ouais,
alors, ce deuil, vous et vos proches, on s'en rend très bien compte quand on lit l'album. Vous ne l'avez pas du tout vécu de la même façon, finalement, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Au début, évoquer le drame, c'était un tabou.
C'est-à-dire que, en fait, moi, je voyais que mes parents... Alors, mon frère était très, très... mon frère n'a pas du tout le même tempérament que moi. Donc, lui, il est plutôt intériorisé. Donc, lui, ce n'était pas possible d'en parler avec lui. Je sentais que... Enfin, en tous les cas... Puis, c'est difficile, je trouve, de parler de ça avec des ados ou des enfants. Je trouvais ça difficile.
Mais il y a une scène assez extraordinaire où ils refusent, effectivement. Ils font l'inventaire de la chambre lorsque Gilles n'est plus là. Et ils refusent même de prononcer son prénom.
Il veut pas dire son nom.
il veut pas dire son nom, ça c'est très très fort.
Donc voilà, et puis mes parents, alors ma mère, enfin mes parents étaient tellement dans la douleur, ça
alors,
se voyait.
Parents séparés, hein,
oui,
c'est
séparés,
important
divorcés. Mon père remarié, et j'ai une demi-sœur qui est née 3 ans après.
Voilà. Donc, Cécile, elle qui elle donc a beaucoup entendu parler de Gilles, mais qui n'a pas connu.
Elle a été très marquée par ça, alors que en réalité, elle l'a jamais connu, quoi. Elle a pas. Bon voilà. Donc voilà, c'était un peu aussi ça, c'est ça, cette onde de choc qui se propage à travers le temps avec des façon plus ou moins intense suivant les moments, mais que je voulais raconter. Quoi,
et donc, vous avez dû replonger dans vos souvenirs et faire replonger aussi les ouais. vôtres dans les leurs, à commencer par votre mère
surtout
et votre
mère,
frère
ouais.
Dominique. Est-ce qu'ils ont été faciles à convaincre? Quand vous leur avez dit que vous alliez faire un album, comment ils ont réagi?
Alors, écoutez, j'en ai d'abord parlé à ma mère. Évidemment, quand je lui ai annoncé ça, ça a été assez, assez rude pour elle. Et puis, bon, on en a parlé une ou deux fois. Bon, c'était par Skype, parce que moi, j'habite à Montréal. Donc
par écran interposé. Toulouse, voilà, vous le dessinez tout ça dans l'album.
Oui.
Hein, voilà. C'est important, parce que le making-of, comme on dit, bah, vous le partagez aussi avec les
lecteurs. Oui, bien sûr. Et donc bon, voilà. Et après, assez rapidement, je pense qu'elle s'est dit que c'était une manière quand même de faire vivre la mémoire de Gilles, de faire ce livre-là, qu'il n'était pas complètement oublié, la preuve. Et alors, en plus, maintenant, je vois tout ce qui se passe au moment de la sortie du bouquin, et je me dis que, ben oui, finalement, il y a beaucoup de gens qui vont savoir qui était Gilles, quoi, et que je pense que ma mère est assez contente de ça. Si elle n'a pas encore lu le livre,
ouais.
je
ne
lui ai
elle
pas envoyé.
Elle n'a pas encore lu le livre.
Non, je ne lui ai pas envoyé.
Ah oui.
Je vais la voir la semaine prochaine, je vais le lui amener, puis on va voir, on va en parler, parce que, voilà.
Ah oui.
Je
ne
sais
ça,
pas
ça
comment,
va être forcément
ouais,
un moment
ça va
très,
quand même être difficile.
Un moment très fort. Alors, on se rencontre, hein, à lire les dialogues que vous avez avec vos proches pour construire cet album, que les souvenirs ne sont pas exactement les mêmes, qu'il y a quelques différences. Par exemple, il y a cette partie de Monopoly qui sort comme ça de l'oubli, alors que vous attendez votre père qui est en vacances en Espagne à ce moment-là et qui rentre, qui repart en Bretagne pour vous rejoindre. Vous vous êtes replongé dans les photos, dans les rapports de police, dans les papiers officiels. Vous intégrez d'ailleurs tout ça au récit graphique. L'idée, c'est quoi ? C'est d'être le plus fidèle possible à la réalité, même
c'est
si cette réalité-là, elle n'est pas vue du tout sous le même angle,
bien
suivant
sûr.
Les personnages.
Évidemment, c'est ma réalité. C'est ce dont moi, je me souviens. Mais comme j'avais des trous, j'ai eu besoin de compléter autant que possible. Ma mère se souvient de beaucoup plus de choses que moi. Et donc, je l'appelais régulièrement pour combler les manques. Et ce qui est formidable avec la mémoire, ça, j'avais déjà fait ce travail sur mes deux précédents bouquins Extase dans un autre registre. Mais c'est pas si... Enfin, pour moi, il y a un lien entre les deux. Hein, mais en fait, moi, je fais une espèce de travail chirurgical, comme ça. J'essaye d'entailler au scalpel sur toute la longueur d'une période et après d'aller farfouiller le plus profond possible dedans. Et ce qui est formidable avec la mémoire, c'est que c'est comme une pelote. Et quand on commence à tirer le fil, il y a des choses qu'on avait oubliées et qui reviennent. Déjà, il y a des choses qui reviennent toutes seules. Et puis alors, quand on a quelqu'un qui... Par exemple, ma mère qui me disait la fameuse partie de Monopoly, je m'en souvenais pas du tout, quoi. Ouais. Et c'est elle qui m'en a parlé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on avait fait après ce jour-là? J'ai aucun souvenir. Mais tu te rappelles pas, on avait acheté un Monopoly. Ah bon? Et là, pom, ça revient.
Ça revient
là,
tout
j'ai
de
eu
suite.
L'image de la pièce où on était avec le Monopoly.
Mais alors, puisque vous utilisez, Jean-Louis Tripp, la métaphore de la chirurgie, ce travail-là de chirurgien, vous l'avez fait sous anesthésie ou pas? Est-ce que c'est très douloureux? Est-ce que ça l'est de plus en plus?
Non.
Est-ce que ça l'est de moins en moins?
Non, non. Alors, je faut tout de suite... Alors là, je suis confronté à ça maintenant que je fais la promo du bouquin.
C'est plus difficile d'en parler
non,
que de dessiner?
Non, c'est que les gens qui viennent de le lire, eux, ils viennent de le lire. Donc pour eux, c'est maintenant que ça se passe.
Évidemment.
C'était il y a 45 ans.
Oui.
Donc évidemment, mon deuil est fait. Et comme je vous disais, je n'avais pas pensé à faire ce bouquin avant. Là, c'est sûr que pendant 2 ans... Bon, j'ai été plongé dans cette histoire-là.
Mais on retrouve les archives, les vieilles photos, etc.
Oui, il y a des moments, évidemment, qu'il y a des moments d'émotion, il y a des moments, bien sûr. Mais en même temps, moi, je suis un auteur qui fait un bouquin.
Donc on arrive à prendre suffisamment de recul.
Voilà, je suis obligé d'avoir une distance narrative et je suis obligé d'être en mode efficace, quand même. Il faut que je fasse la meilleure histoire possible, donc que je la raconte le mieux possible et tout ça. Et ça, ça prend clairement le dessus il y a une émotion au début. C'est vrai que des fois, j'avais des Skype avec ma mère. Bon, c'était un peu... Voilà. Mais après, pop, je me mettais à bosser et là, je passais en mode production, quoi. Donc,
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
avec Jean-Louis Tripp pour son album Le Petit Frère, paru chez Casterman. Alors, vous en parliez il y a quelques instants. Vous êtes aussi l'auteur de la série Extase, qui est aussi autobiographique, mais sur une thématique quand même assez différente, puisqu'elle parle de sexualité, mais en tout cas, parler de vous, parler de l'intime, vous savez faire. Vous avez eu le sentiment que ça n'avait strictement rien à voir, là, pour Petit Frère,
pour
ou
moi,
il y a un prolongement?
Ah, bien sûr. D'abord, dans le tome 1 d'Extase, j'évoque la mort de mon frère.
De façon beaucoup plus abusive,
bien sûr,
évidemment.
Parce que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le cœur du sujet. Mais je ne pouvais pas, je n'avais pas prévu de le raconter avant, quand j'ai commencé le bouquin, mais à un moment où je suis arrivé à cette période de ma vie, je me suis dit, mais tu ne peux pas raconter ta vie, quel que soit l'aspect de ta vie, sans parler de ça, c'est évident. Donc j'ai fait une petite parenthèse là-dessus. Voilà. Mais le rapport, pour moi, il est simplement dans le fait que je pense... En fait, c'est marrant, hein, parce qu'on commence, on comprend des trucs sur ce qu'on a fait après. Alors, les interviews aident beaucoup à ça, parce qu'on est obligé de clarifier sa pensée en parlant. Et en fait, je pense que ce que je suis en train de faire sur mon travail autobiographique, le prochain bouquin va aussi se raccorder à ça, c'est un travail sur... une réflexion, on va dire, sur qu'est-ce qui nous construit en tant que personne. Et là, il y a quelque chose d'universel. On a tous une sexualité, donc d'une manière ou d'une autre, on a se colleté avec ça à l'adolescence, par exemple, et puis après le reste de sa vie, avec toutes les questions que ça peut poser. On sera tous confrontés à la mort à un moment ou à un autre. Voilà. Mon prochain bouquin, ça va être sur mon enfance autour de mon père. Donc là, c'est encore une manière de comment on se construit à l'enfance, la figure du père, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est ça. Donc le rapport est là, quoi.
Alors, Le Petit Frère, paru donc chez Casterman. L'histoire commence le 5 août 1976 en Bretagne, dans les Monts d'Arrée. Vous avez à ce moment-là 18 ans, Jean-Louis Tripp. Vous passez des vacances en famille. Et votre récit commence sur un ton plutôt rieur, hein, en particulier quand vous évoquez le tchirbol. Alors, c'est quoi le tchirbol?
Ah, c'était formidable. On avait inventé un jeu qui se jouait avec des chaises pliantes, comme ça, un ballon de plage, très léger. Et bon, enfin, il y avait des règles, je raconte ce...
Ah oui, il y a une case très précise,
un dessin. Absolument, oui, c'était très précis. On a fait cette partie-là. D'ailleurs, j'avais jamais pensé à ça, mais en fait, je me dis, ben voilà, si on n'avait pas fait cette partie de tchirbol, on serait passé sur cette route 2 heures avant et peut-être qu'il ne se serait rien passé.
La partie de tchirbol, les rires, une atmosphère familiale très, très joyeuse, vous ramassez des mûres au bord de la route. Ouais. Alors, il fait très chaud, hein, l'été 76, c'est le fameux été de la canicule. Ouais. Alors, tout le monde monte dans des roulottes que vous aviez louées pour la semaine et votre petit frère, donc Gilles, est à l'intérieur, il ouvre un placard, il se prend une cocotte minute sur la tête, sur la cafetière, comme vous dites d'ailleurs dans l'album. Résultat, il est de belle bosse, il se couche avec un gant sur la tête, il se repose, il dort un peu à l'intérieur de la roulotte. Et quand il se réveille, il vient vous rejoindre sur la plateforme de la roulotte. C'est vous qui tenez les rênes des chevaux. Vous êtes assis à ce moment-là à côté de votre autre frère. Vous êtes dans la deuxième roulotte, absolument. Et Gilles, lui, il arrive, donc il vous rejoint avec toute la fraîcheur de ses 11 ans. Alors, il pète la forme, il a un sourire absolument éclatant. Il se met à chanter un tube très, très à la mode de cet été 76, Le Printemps de Michel Fugain avec le Big Bazar. Michel Fugain qui, entre parenthèses, fête aujourd'hui ses 80 ans. On a un peu l'impression quand même que vous n'êtes pas un grand fan de la chanson, en tout cas qui vous saoule un petit peu quand même. Hein.
Ah mais moi,
qu'il chante moins bien que Michel Fugain.
Oui, c'est ça. Non, mais moi, j'adorais Michel Fugain quand j'étais ado. Le Big Bazar, tout ça, c'était formidable. Sauf que là, il nous a rabattu les oreilles pendant tout le séjour avec ça et il chantait pas très juste. Voilà. Donc, effectivement.
Mais bon, nous, lecteurs, en tout cas, évidemment, on a envie de rire à ce moment-là parce qu'on voit évidemment votre visage. Et cette scène-là, elle est importante parce que cette chanson montre la joie de vivre de Gilles et elle renforce le contraste absolument incroyable entre les minutes qui précèdent le drame et la vie comme ça qui va s'arrêter subitement. Je voudrais revenir sur la façon dont vous avez dessiné le choc, dont vous avez fait ressentir au lecteur le bruit du corps qui heurte la voiture lancée à vive allure sur cette route bretonne. On parlera des circonstances dans un instant, mais vraiment sur ces trois images-ci là, qui sont devant moi sur la table du studio, où on voit le corps de Gilles emporté et fauché par cette voiture. Ces trois cases-là, qui se trouvent à la page 17 de l'album, elles ont été, j'imagine, particulièrement difficiles à dessiner.
Justement, pas du tout. En fait, c'est très curieux parce que cette page-là, c'est la seule chose que je n'ai pas vue. parce que moi, je n'ai pas vu le choc.
Oui, vous regardiez la route devant
vous. Je lui tenais la main, et simplement, sa main a été arrachée à la mienne, mais j'ai vu une forme verte qui passait. Bon, j'ai compris que c'était une voiture, et j'ai même une espèce de vision comme ça, de quel type de voiture ça pouvait être. Mais j'ai vu la couleur, par contre. Et puis, la seconde d'après, il était à 25 mètres de là, sur la route, quoi. Donc, ces images-là que j'ai dessinées, je ne les ai pas vues. Et je me suis même demandé, à un moment donné, si, en fait, je n'avais pas fait tout ce bouquin pour dessiner ça.
C'est-à-dire que vous avez imaginé la scène, vous vous êtes basé sur quoi pour dessiner ces trois cases-là ?
Une voiture qui renverse un gamin en le prenant à, je sais pas.
Oui, mais sur la posture, sur la position.
Ah ben non,
c'est complètement imaginé.
Il a eu un choc, je ne sais pas dans quelle position il était à ce moment-là, je ne l'ai pas vu, puis même, peut-être que je ne me souviendrai pas de ça. Mais cette image-là, c'est la seule du bouquin que je n'ai pas vue. En fait.
Et vous teniez pourtant à la dessiner, parce que vous auriez pu faire une ellipse à ce moment-là.
Oui, mais en fait, ça m'a paru important. Du point de vue de l'histoire, je vous dis, je me demande si je n'ai pas fait ce truc-là pour faire
ça,
cette image,
pour
faire cette page de trois images. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que je pensais que ça serait difficile à faire, pas seulement émotionnellement, mais techniquement. Techniquement, c'était...
Montrer la vitesse du véhicule,
choc. Le choix des plans, etc. Et ça a été extrêmement facile à faire. J'ai fait ça d'un jet. Et c'est là que je me suis dit, peut-être c'est ça que tu... Voilà, c'est peut-être qu'il y avait un truc important pour toi à faire, là, dessiner cette page. Mmh.
Alors le lecteur, lui, à ce moment-là, quand il voit cette page 17-là, il a presque l'impression d'être dans le corps de Gilles. Quoi. C'est vraiment incroyable. Ouais. Alors que sur les pages 15 et 16, donc sur les deux pages précédentes, il se met plutôt à votre place, à vous.
Oui, bien sûr.
Jean-Louis Tripp, il n'y arrive pas évidemment, mais il est proche de vous. Ce sont deux pages qui sont avec des planches, des dessins pleins de pages, pour le coup. Et le détail le plus important, c'est tout sauf un détail, c'est la main.
C'est la main.
C'est votre main. Sur le premier dessin, il y a deux mains. Donc on voit la vôtre et la sienne, celle de Gilles qui s'apprête à disparaître. Et sur le second dessin, on vous voit, vous. Alors cette fois-ci, c'est un peu comme si on avait l'impression d'avoir une caméra focalisée sur vous. Et on ne voit que votre main avec cet éclair qui sort un petit peu des mains.
Est-ce que vous pouvez nous... L'expression de surprise.
L'expression de surprise. Ouais. Voilà, cette idée, d'ailleurs, vous parlez d'un éclair vert, d'ailleurs, dans le texte. Cette idée d'éclair, comment est-ce qu'elle vous est venue ?
Je vous dis, la voiture... En fait, comme nous étions sur la deuxième roulotte, je ne voyais pas ce qui se passait devant. Enfin, j'avais notre cheval était collé à l'arrière de la roulotte principale, donc il y avait un espace juste de la longueur d'un cheval entre les deux. Donc voilà, donc c'était masqué. Et il faut préciser que la voiture est arrivée complètement à gauche, c'est-à-dire à un endroit où on ne l'attendait pas. Nous, on roulait sur le bas-côté, donc on mordait un tout petit peu sur la route, mais à peine. Et quand Gilles est descendu, il ne pouvait pas descendre du côté droit parce qu'il y avait un fossé. Il a dit, ouais, il y a un fossé, c'est profond, c'est plein de fougères et tout ça, donc je descends. Alors je lui ai dit, fais gaffe. Regarde derrière, s'il n'y a pas une voiture qui arrive, comme on fait quand on ouvre une portière et qu'on descend de voiture. Donc il a fait ça, il m'a dit oui, je regarde, il a mis son pied sur le marchepied, s'est tourné vers l'arrière et la voiture est arrivée à ce moment-là. Donc moi, je vous dis, je l'ai vu dans un espace qui est l'espace entre les deux roulottes, c'est tout. Ça a été, et il roulait vite, donc ça a été extrêmement bref, d'où l'éclair.
Donc l'important, c'est l'éclair et c'est la main, et on retrouve effectivement cet éclair et cette main à plusieurs moments de votre récit. C'est vraiment une image très très récurrente.
Ouais,
pareil pour l'accident,
pour
le corps de Gilles sur la chaussée. Et on la retrouve en particulier à pleine page aussi, page 59, avec quelques teintes de bleu et de rouge. On est dans la séquence qui suit immédiatement l'annonce du décès de Gilles à l'hôpital. Pourquoi ces petites touches de couleurs là ? C'est une technique que vous avez utilisée, on a presque l'impression d'une bruine, que vous avez utilisé à plusieurs reprises comme ça dans votre récit.
Pour moi, c'était... En fait, j'ai énormément travaillé sur cette séquence en particulier parce que je n'arrivais pas à la faire en noir et blanc, bizarrement. Alors que c'est... Parce que pour moi, cette séquence-là, c'est celle où j'apprends de façon très violente que mon frère est mort. Moi, je ne savais pas jusque-là. Il était parti, il n'était pas mort sur place. Donc, il est parti à l'hôpital. Ça a duré un petit moment. Mais en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital, il était peut-être, je ne me rappelle plus, 2h du matin, un truc comme ça. Tout d'un coup, une infirmière m'a annoncé brutalement qu'il était mort, mais vraiment sans précaution, quoi. Oui. Et là, c'est à ce moment-là que le monde s'effondre. À ce moment-là, c'est... Dans les films, il y a une manière très très forte qu'on retrouve souvent dans les films de montrer ça, c'est que tout d'un coup, l'image est en super ralenti et on n'entend plus les sons, alors ils sont déformés, on est dans une espèce de monde à part, comme ça. Et pour moi... Donc j'ai beaucoup travaillé sur les couleurs de cette séquence-là parce que je voulais en fait que ça évoque quelque chose de crépusculaire, quoi. Il y avait, c'était une pluie de cendres pour moi. Voilà, ce que vous dites, c'est une bruine. Pour moi, c'est une pluie de cendres comme ça qui s'abat sur vous. Et là, on ne comprend plus rien à ce qui se passe. On sait, on réalise sans réaliser. C'est l'horreur, quoi.
Voilà. Et puis il y a cette, on est toujours dans la même pluie, hein, cette planche où vous êtes debout, les bras le long du corps, le regard perdu avec ce mot écrit en gras, mort, M-O-R-T, et vous écrivez, on connaît le mot, on sait ce qu'il veut dire, mais on ne le comprend pas, on ne peut pas le comprendre, quelque chose en nous s'y refuse.
C'est ça.
C'est normal, y a pas de règles dans ces jeux-là. Tu sais, j'ai la voix qui se serre quand je te croise dans les photos. Tu sais, j'ai le cœur qui se perd. Je crois qu'il te pense un peu trop. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Silence, même dans les cris, même dans la fête, c'est dur de combattre l'absence, car cette conne n'en fait qu'à sa tête, et personne ne peut comprendre. On a chacun sa propre histoire. On m'a dit qu'il fallait attendre que la peine devienne dérisoire. C'est comme ça, c'est comme ça. Un peu plus longtemps, j'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends.
Ta main, Grégoire, dans VMDN sur RFI avec Jean-Louis Tripp pour son album de BD Le Petit Frère chez Casterman. Et la main, elle est vraiment fondamentale, hein, d'un bout à l'autre de votre récit. On la retrouve aussi dans les toutes dernières cases de l'album. C'est vraiment très très beau, très très émouvant dans cet épilogue. La main, l'accident, le corps sur l'asphalte, ça revient vraiment à de nombreuses reprises dans votre récit. Mais la main, c'est aussi Jean-Louis Tripp, c'est aussi celle qui dessine, c'est celle qui écrit. C'est celle qui raconte
au
lecteur.
C'est pas la même, parce que c'est c'était la, même, la gauche, voilà, alors que je dessine avec la droite.
Alors, la main, elle dessine et elle écrit des mots. Trouver les mots, c'est plus dur que de dessiner dans ce genre d'aventure.
Écoutez,
graphique.
Moi, je n'ai pas de scénario. Je travaille sans scénario. Depuis que je fais l'autobio, donc pour Extase et pour Le Petit Frère, je commence à raconter l'histoire avec les dessins directement.
Storyboard quand même?
Non, rien,
même pas. Donc vous dessinez page après page, case après case.
C'est de l'écriture. C'est exactement de l'écriture, sauf qu'il y a des dessins. Donc, pour répondre à votre question, les mots viennent en même temps que le dessin. En fait, je suis tout le temps en train de penser au rapport entre les deux. Alors, des fois, il s'impose le fait qu'il n'y a pas besoin de mots. Et ça m'arrive de les enlever, des fois, d'avoir prévu de les mettre, puis de me dire, non, c'est inutile. Et puis, des fois, les mots... Alors, une des forces de la bande dessinée, c'est justement ce rapport entre les textes et les images. On n'a pas besoin, par exemple, d'avoir des descriptions. On n'a pas besoin de décrire...
Il suffit de regarder.
Voilà, il suffit de regarder. On voit tout de suite qu'est-ce qui se passe, d'abord, géographiquement, au niveau du décor et tout ça. Et puis, on voit les expressions de visage, on voit la posture des personnages, voilà. Donc, mais des fois, il y a besoin qu'à ce moment-là, on précise quelque chose dans un texte off, la voix intérieure, en fait, voilà, c'est ma voix, toujours. Je n'attribue jamais de pensée à quelqu'un d'autre que moi. dans mes
quel que soit,
jamais.
Quel que soit votre
je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, je ne sais que ce qu'ils me disent ou ce que je vois d'eux. Par contre, moi, je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi, donc ça, je peux le dire. Voilà. Et puis, il y a un autre niveau. En fait, il y a deux niveaux pour les textes, deux niveaux de langage. Pour moi, il y a les dialogues, dont j'essaye de faire en sorte qu'ils sonnent juste, le plus juste possible. Donc, ce n'est pas très littéraire au sens... c'est du dialogue, quoi. Il faut que ça ait l'air vrai, quoi. Et puis après, il y a le texte off, qui, lui, est à un autre niveau, effectivement, un peu plus littéraire. Voilà. Et je travaille beaucoup là-dessus. Les textes, je travaille énormément dessus.
Alors, les mots, effectivement, ils sont là. Et puis, il y a effectivement les dessins et puis les corps qui, souvent, en disent autant, voire plus que les mots, et en particulier les yeux. Alors, il y a beaucoup d'yeux qui pleurent, évidemment, et pas seulement. Il y a les regards de chagrin, donc il y a les regards de détresse, il y a les regards perdus, il y a beaucoup de regards perdus, il y a des regards de colère aussi, parfois, dans l'album. Il y a vraiment une gamme extrêmement étendue. Et c'est vrai que dans la vie, on communique beaucoup avec les yeux, mais on ne s'en rend pas forcément compte soi-même. Comment est-ce que vous avez travaillé cette question des regards, Jean-Louis Trippet?
Alors, j'ai une certaine expérience, parce que quand je faisais Magasin Général, au début de Magasin Général, le personnage central de Marie, elle vient de perdre son mari... Et elle est au bord des larmes pendant pratiquement tout l'album. Donc j'ai travaillé techniquement ce truc de ces différents niveaux de la larme qui monte, etc., etc. Bon, après, c'est un travail technique. Mais il est vrai que je me suis posé une question, parce que moi, mon grand souci, c'est d'éviter le pathos. Ça, c'est vraiment un truc, c'est écrit en énorme au-dessus de mon bureau, pas de pathos.
Alors c'est réussi, mais c'est un danger majeur dans ce genre de récit.
Donc, comment on fait pour rester sur cette ligne où on est dans l'émotion, on est toujours sur le fil d'émotion, embarquer le lecteur avec nous sur ce fil de l'émotion sans jamais en rajouter, quoi, sans jamais... Bon, je pense que là, quand on a une histoire comme ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter, en fait. Il faut rester très, très, très sobre à ce niveau-là. Effectivement, le problème de la bande dessinée par rapport au cinéma, pour le coup, là, c'est qu'un personnage qui joue et qui pleure, on le voit pleurer, on y croit. Enfin, s'il joue bien, on y croit. La représentation en bande dessinée suppose d'avoir recours à des... Enfin, d'abord, il faut bien amener la scène pour qu'on y croit, parce que sinon, ça peut être ridicule facilement. Et puis, après, il y a des trucs... Enfin, il y a une invention graphique. Par exemple, bon, je dessine beaucoup mon frère Dominique, après l'accident, avec des yeux complètement vides, c'est-à-dire il a des ronds. Bon, c'est pas moi qui ai inventé ce code graphique, mais il fonctionne extrêmement bien, parce que là on voit quelqu'un qui est complètement absent. Bon, ben ça, voilà, c'est pas réaliste si vous voulez, mais ça fonctionne, quoi.
Alors il y a aussi beaucoup de travail, je pense, sur les postures des différents personnages. Par exemple, il y a une scène là qu'on a devant nous à la page 131. En plus, vous êtes pas du tout vous êtes aussi un dessinateur du détail, Jean-Louis Trippet. C'est-à-dire que il y a énormément de petits détails dans chacune de vos cases, y compris à l'arrière-plan, y compris des petits objets, etc. Donc là, c'est une scène qui se passe dans un salon. Hein, on veille le corps. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous avez composé, en particulier la case du haut de cette page-ci?
Alors, c'est... Attendez, je vais là.
Allez-y.
Oui,
il y a beaucoup de personnages.
Voilà, c'est ça. En fait, bon, dans cette séquence au complet, j'essaye de rendre compte du côté absolument interminable de ce qui se pratique plus beaucoup maintenant, j'imagine, c'est la veillée funéraire. Alors, on dit veillée, mais ça dure toute la journée. Parce que...
La séquence dure... 40 plusieurs pages, dizaines de pages.
Je pense 40 pages. Ouais.
Voilà,
c'est une séquence qui, moi, m'a paru absolument interminable. Elle a duré plusieurs jours. Hein, 3,
donc, c'est le
jours.
Ressenti que voilà. Vous traduisez à travers.
Alors, pour moi, j'étais dans un état second, donc, cotonneux, comme ça. Il n'y avait plus de nuit, plus de jour. On mangeait quand on avait faim, mais des fois, on n'avait pas faim. Enfin, bon, bref, c'est très. Voilà. Et il y avait des gens qui passaient tout le temps pour présenter leurs condoléances à la famille, etc., etc. Donc, cette séquence, là, je l'ai dessiné, je savais qu'il y avait une sorte d'image que je voulais montrer pour rendre compte de cette ambiance. Et donc, je les ai dessinées complètement dans le désordre. C'est-à-dire que j'ai fait des petites séquences comme ça, et après, je les ai montées pour en faire un tout cohérent. Mais j'ai dessiné jusqu'à ce que je me dise, OK, là, j'ai plus rien à dire. Tout est dit. Voilà. Alors bon, ben là, c'est sur la case.
Mais les corps, ils parlent autant ?
Oui, alors, ça, c'est un autre. Bon,
parce qu'il y a le langage du corps, il y a le langage des yeux qu'on évoquait, mais il y a aussi le langage du corps dans la globalité.
Donc, on revient à ce que c'est qu'un auteur de bande dessinée. Un auteur de bande dessinée, il est à la fois scénariste, enfin, s'il est un auteur complet, il est scénariste, dessinateur, mais il est aussi metteur en scène. C'est lui qui décide de sous quel angle on va montrer le truc, etc., et comment on va le montrer. Et il est aussi directeur d'acteur. C'est lui qui fait jouer ses personnages. Et moi, je suis aussi, comme on parlait pour les yeux tout à l'heure, mais je suis aussi très attentif à ça. C'est-à-dire que la posture, le langage gestuel, on le sait dans la vraie vie, le langage gestuel, ça nous parle tout de suite. Hein. Si quelqu'un est un peu penché, on comprend tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas. On voit bien la façon dont se tiennent les gens. Ça parle beaucoup de leur état émotionnel. Et donc, moi, je suis très attentif à ça. Donc là, effectivement, je sais pas, il y a beaucoup de personnages qui sont dans différentes. Alors, il y a ceux qui viennent présenter les condoléances, qui ont un peu un air de circonstance comme ça. Voilà. Puis la famille qui est un peu, qui reçoit ça en étant un peu à côté de la plaque souvent, parce que dans ce cas-là, on entend les trucs sans vraiment les entendre, etc., etc. Quoi. Donc ouais, c'est ça. Et dans le décor, j'ai dessiné en fait deux décors vides, champ contre champ de ce salon. Ouais. Et après, j'ai placé mes personnages à chaque case. Ça, c'est les miracles de pouvoir dessiner en numérique. Parce que j'aurais utilisé le même décor en l'agrandissant, en zoomant, etc., etc. Et en plaçant à chaque fois mes personnages dedans.
Oui, mais c'est important effectivement de changer la focale et le point de vue. A fortiori, si la scène dure, des pages et des pages.
Il y a des intérieurs, il y a des extérieurs, il y a des scènes qui se passent dans différents endroits de la maison. Mais c'est ça, c'est vraiment une longue séquence et avec des ambiances très différentes. Parce qu'il y a des ambiances de jour quand il y a les visites, mais il y a aussi des ambiances de nuit. Quand il ne se passe rien, qu'on s'endort un petit peu, mais qu'il y a toujours quelqu'un qui veille le cercueil, etc. etc. quoi.
Alors, autre séquence, toujours à propos du corps, et cette fois-ci, c'est du vôtre dont il s'agit, sauf que là, on n'est pas du tout dans une séquence réaliste. Hein. C'est une séquence qui montre l'état d'esprit qui est le vôtre à un moment très précis du récit. Et là, on est dans une forme très métaphorique, finalement.
Oui, alors... Là, j'ai repris exactement, enfin, je l'ai redessiné, mais j'ai repris des éléments d'une séquence que j'avais déjà dessinée dans Extase, dans le tome 2 d'Extase, qui raconte un épisode de ma vie où j'étais en dépression. Et donc, cette sensation de chute et de noyade. Là,
voilà,
de,
donc, on a des cases tout en vertical, voilà. Où on voit effectivement un corps
qui tombe
dans l'eau et qui petit à petit s'enfonce, voilà. et qui coule.
Et puis, à un moment donné, on ne sait plus trop si on est dans l'eau ou en l'air, parce qu'il y a un revolver au premier plan.
Impressionnant, le revolver. Ouais, c'est pas un petit revolver. Elle donne froid dans le dos, quand même.
C'est un moment où j'étais pas loin de ça, quand même, dans ma vie.
Je cueillis ce brin de bruyère. L'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, voix de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends.
Léo Ferré dans VMDN sur RFI, Léo Ferré qui chante l'adieu de Guillaume Apollinaire. Ce sont d'ailleurs les mots d'Apollinaire, Jean-Louis Tripp, que vous avez choisi de placer en épigraphe de cet album. Et cet adieu, il se manifeste aussi par un dessin que vous avez laissé dans la tombe de Gilles. Vous l'évoquez, on voit votre main qui s'apprête à attaquer la feuille blanche, mais le dessin lui-même, on ne le voit pas.
J'ai aucun souvenir de ce dessin. Je ne sais pas ce que j'ai dessiné. Je sais que j'ai dessiné quelque chose au pastel, ça me rappelle très bien, et que je l'ai mis sur le cercueil à la fin. Mais je ne me rappelle pas du tout de ce que j'ai dessiné. Donc, voilà.
Voilà, donc c'est un dessin qui n'existe pas. Et pourtant, vous l'évoquez sur une double page complète. C'est-à-dire,
oui,
c'est un moment, c'est un moment très fort du récit. Moi, je vous assure que, en feuilletant le livre, en le lisant, je me suis arrêté. Et je me suis arrêté extrêmement longtemps sur cette double page, et j'y suis revenu plus tard parce que je me suis dit qu'on allait le voir ce dessin lorsque le cercueil allait être définitivement fermé, et non.
Je ne me souviens pas. J'ai aucun souvenir de
ça. Et pourtant, c'était indispensable de lui consacrer une double page à ce dessin dont vous ne vous souvenez pas.
Ben oui, c'est important. C'est important de parler aussi de son dont on ne se souvient pas, en l'occurrence. Vous savez, mon frère, il a une théorie là-dessus, je pense qu'elle est juste. Il dit personne ne se souvient de la même chose. Lui, il est documentariste, et il m'a dit au moment où je commençais ce bouquin qu'il avait l'idée de faire un documentaire là-dessus. On a interrogé les différentes personnes pour avoir leur version du truc. Bon, il l'a pas fait, il a filmé un peu quand on était en Bretagne, mais il l'a pas encore fait. J'espère qu'il va le faire, ça serait formidable d'avoir son point de vue. Mais voilà, c'est ça, il a raison. On ne se souvient pas tous de la même chose. Moi, ce que je raconte, c'est ma version, ma vision. Peut-être que lui, quand il va le lire, s'il le lit, il ne sera peut-être pas d'accord avec certains trucs. C'est possible, il a peut-être d'autres souvenirs.
Oui, en tout cas, ce qui est frappant à travers cette scène, c'est aussi que vous avez 18 ans. Hein, lorsque le drame survient, ça veut dire qu'à 18 ans, le dessin, c'est quelque chose de déjà extrêmement important pour vous. À 18 ans, vous aviez déjà la certitude que vous alliez faire du dessin votre métier ?
Alors, en tout cas, j'en avais la volonté, et ma première page a été prise dans Métal Hurlant.
On va y venir.
Voilà, c'est ça. Ouais. 9 mois après, donc 9 mois après la mort de mon frère. Donc pour moi, c'était quand même une espèce d'écartèlement émotionnel assez violent à ce moment-là, parce que j'étais tellement heureux d'être enfin... Enfin, j'avais 19 ans, donc... mais j'attendais ça depuis que j'avais 16 ans.
Voilà.
Et ça me paraissait long.
Et ça vous a paru long, effectivement, dans les mois qui suivent, parce que vous racontez votre entrée à l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art à Paris, donc dans le 15e arrondissement. Vous vous êtes carrément ennuyé, le moins qu'on puisse dire. Pour quelle raison, d'ailleurs,
J'étais avant à une autre école qui s'appelle l'atelier Maître de Penningen, où le niveau était... Alors, je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, le niveau était nettement supérieur. Et moi, je m'emmerdais comme un rat mort au métier d'art. Donc, et puis, j'étais dans un état, il faut dire que j'étais pas très, très...
État d'esprit, non, effectivement, pour étudier. Ouais. Oui, ça, c'est clair. En revanche, enthousiasme total, effectivement, quand 9 mois après la mort de Gilles, vous entendez donc un petit oui. Alors, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment un seul mot, comme ça, à l'intérieur du phylactère qui sort de la bouche de Jean-Pierre Dionnet. Alors, ce oui, il vous ouvre les portes du magazine Métal Hurlant. Vous l'avez dit, le grand magazine de science-fiction qui est devenu mythique, qui ressortit d'ailleurs depuis quelques mois à peine. On est donc 2 ans à peine après la création de Métal Hurlant, avec de grands noms, donc Dionnet, bien sûr, mais aussi Moebius, Serge Clair, Drouillet, qu'on a reçu dans cette émission. Au-delà de la reconnaissance de votre technique de dessin et de votre talent, Jean-Louis Tripp, humainement, c'est une sacrée bouffée d'oxygène, justement, cette entrée dans Métal Hurlant.
Alors, ma mère, j'en parle dans le bouquin, parce que ma mère, évidemment, après la mort de mon frère, était dans un état de peur, panique, qu'il nous arrive quelque chose à mon autre frère, Dominique, ou moi, quoi. Donc, à un moment, je raconte que... Parce que ça, je ne m'en souvenais pas non plus. C'est elle qui me l'a raconté, qu'on était allé après les obsèques à Biarritz pour essayer de se changer les idées, entre guillemets, si vous... Voilà. Et que, nous, on avait 18 et 14 ans, donc on allait se baigner dans les grandes vagues et tout ça, qu'elle était terrorisée. Et que je lui ai dit, et c'est elle qui me l'a rappelé, je m'en suis souvenu après, que je lui ai dit, « Maman, c'est pas parce que Gilles est mort que tu vas nous empêcher de vivre, à nous. » Et donc, moi, j'avais 18 ans, quoi. Donc, j'avais une vie à vivre. C'était le moment. Et c'était plus fort. La vie était plus forte que, voilà, j'étais dévasté par la mort de mon frère, mais j'avais une vie à vivre. Et donc, le moment où je commence à Métal Hurlant, pour moi, c'est... C'est le début de ma carrière, déjà. Oui,
vous vous envolez, d'ailleurs. Ah oui, là, on est à la radio, mais vous faites ce geste-là.
Oui,
et c'est le même geste, d'ailleurs, qu'on retrouve dans l'album, parce que vous vous envolez sur les toits de Paris comme
mais
un oiseau.
Ça,
quoi. Vous prenez votre envol.
Oui, c'est arrivé.
Littéralement.
Quand Jean-Pierre Dionnet m'a pris ma première planche, et le mois d'après, quand je suis allé au kiosque, acheter le numéro.
Oui,
c'est le numéro 15 de Métal Hurlant.
Numéro 15,
et je me rappelle que je suis rentré chez moi, je ne touchais pas le quai du métro. J'étais en lévitation. Quoi.
Voilà, justement, cette première planche, elle est reproduite aussi dans la BD. Vous nous racontez ce dessin. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans l'esprit SF.
Bon, ben, c'était, voilà, moi, je voulais être à Métal Hurlant, alors que je ne suis pas très... très la SF, c'est pas mon
oui,
truc.
C'est pas tellement...
Fait,
vous n'avez pas creusé la
veine. Été mon truc. Mais à ce moment-là, je faisais des dessins, voilà, qui étaient quand même très, très... avec beaucoup de hachures, assez influencé évidemment par Moebius. Et bon, là, ce sont deux personnages qui sont habillés, je crois, d'une façon un peu bizarre, quoi, avec des espèces de tenues de footballeur américain, mais avec tout un tas d'accessoires bizarroïdes, et qui se battent. Voilà. C'est une pleine page.
Voilà. Et c'est vrai qu'elle détonne aussi par rapport à l'ensemble par rapport à l'ensemble du récit. Mais je crois que c'était évidemment indispensable pour vous et pour nous aussi, parce qu'on apprend aussi des choses d'avoir cette planche-là sous l'œil. Alors à l'époque, Jean-Louis Triple, la tablette graphique n'existait évidemment pas.
Ah,
donc c'est un outil que vous avez l'habitude d'utiliser aujourd'hui.
Pas du tout. C'est mon premier.
C'est la première fois.
C'est la première fois.
Alors pour quelle raison vous vous êtes dit c'est le moment?
J'ai eu l'occasion de découvrir la tablette graphique parce que j'étais en couple il y a quelques années avec une autrice qui s'appelle Audemer Millot et qui, elle, travaillait sur tablette graphique. Donc, elle s'est acheté un iPad à un moment donné et puis j'avais besoin de faire des couleurs pour un dessin. Enfin, bon, bref, je lui ai dit, j'avais pas d'autre recours à ce moment-là. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me montrer? Elle m'a montré. En 10 minutes, j'avais compris comment ça marchait. Et après, je me suis dit, c'est extraordinaire ce truc-là, parce que j'ai commencé à comprendre les possibilités du truc. Et
mais c'est extraordinaire parce que ça permet de mettre en scène d'une façon incroyable ou parce que ça permet de gagner du temps?
Tout. C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'y a pas d'erreur possible à la tablette, puisqu'on peut toujours effacer le dernier trait.
Oui, mais enfin, la gomme, ça existe aussi.
Oui, mais c'est quand même pas la même chose. Là, ça va très vite. Mais surtout au niveau de l'ancrage. C'est-à-dire que la gomme, ça ne marche pas avec l'encre.
Non,
donc quand vous plantez à l'ancrage, il faut gouacher, il faut faire des... Alors que là, c'est... Bon, et puis la gestion de la documentation, la gestion... Tout, la gestion des décors, je vous ai dit. Je décide un champ contre champ, et après, je peux l'agrandir, le réduire, le réutiliser. Toutes les scènes du cimetière, par exemple, ça a été fait comme ça. Et donc ça, c'est un gain de temps extraordinaire. Mais surtout, le fait qu'il n'y ait pas d'erreur possible, ça permet de prendre des risques. Et donc montrer à gagner en vitalité, en force.
Donc l'essayer, c'est l'adopter.
Ah ouais, pour moi,
maintenant,
oui.
C'est votre outil.
Et en plus, c'est sensuel, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Alors, on a un peu parlé, Jean-Louis Triple, depuis le début de cette émission, de vous, de votre famille. Il y a un personnage clé qu'on a brièvement évoqué, sur lequel je voudrais quand même revenir un peu avec vous, c'est le chauffard. C'est cet homme qui a pris la fuite sur cette départementale du Finistère, en cette journée d'août 1976, parce que lui aussi est dans l'album. Il n'a jamais été question pour vous de l'occulter, ce personnage?
Non, je ne peux pas l'occulter, ce n'est pas possible. On l'a anonymisé au maximum,
oui.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas son nom, il n'y a pas son... Enfin, il n'y a rien de...
Il y a son visage.
Mais oui, mais il n'est pas ressemblant. Honnêtement, je ne me rappelle pas vraiment à quoi il ressemblait. Hein. Donc moi, j'ai dessiné un visage qui est... ça n'avait aucun intérêt d'essayer de faire un
visage
ressemblant. Oui, c'est ça. Oui. Mais qui évoque quelque chose, quand même, voilà, qui a du sens pour moi.
Oui.
C'est quelqu'un de normal, quoi. Voilà. Je pense qu'il était... Moi, je me suis mis à sa place. Je me mets à sa place dans l'album. Et je pense que ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui fait ça pendant un millième de seconde au moment où l'accident, ça doit être un blanc total.
Oui.
Et que, bon, voilà. Donc moi, j'ai pas du tout dans la rancune, dans le truc. Bon, voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'étais en colère à l'époque, évidemment. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et puis voilà, quoi. Maintenant...
Mais vous allez quand même un petit peu plus loin, si je puis me permettre, Jean-Louis Triple, parce que vous dites que, je vous cite, « Je crois que lui et moi, la seconde où il a percuté mon frère, nous nous sommes trouvés pour des raisons opposées dans le même état.
Oui. »
Donc le blanc que vous venez, venez d'évoquer, c'est pas exactement le même, mais ils sont similaires.
Moi, je pense que ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire un état où le cerveau déconnecte pendant un moment, parce qu'il vient de se passer quelque chose de tellement violent qu'on n'est pas capable, alors ça dure une seconde, mais... Il y a un blanc, quoi. Enfin, moi, je me souviens de ça pour moi, et je pense que si je me trouvais dans cette situation, ce qu'à Dieu ne plaise, là, mais ça aurait pu m'arriver, je pense que ça pourrait arriver à n'importe qui.
Ça pourrait arriver à tout le monde.
Oui, c'est ça, un moment d'inattention, ça peut arriver.
Mais alors, le délit de fuite, ça en fait
alors,
un salaud ou ça en fait un pauvre type?
J'ai pas de jugement par rapport à ça. Ça en fait quelqu'un qui n'a pas assumé ses responsabilités à ce moment-là, mais on aimerait tous penser qu'on est des gens super, mais moi, je n'en sais rien de ce que je ferai. J'espère que je le ferai, mais je ne le sais pas. Et du reste, ma mère, qui lui a écrit une lettre, dit ça, elle dit, en fait, ce que je vous reproche le plus, c'est de ne pas avoir prévenu les secours.
Oui.
D'être parti et puis d'avoir fait comme si de rien n'était. Quoi.
Et elle termine la lettre, je ne vous pardonnerai jamais.
Non, alors elle ne lui pardonnera jamais. Moi, je ne suis même pas parlé de pardon, j'en sais rien, mais en tous les cas, je ne suis pas clairement pas dans la vengeance.
Non,
ça, c'est sûr.
Clairement non. Par contre, il y a des mots quand même que vous n'avez pas du tout digérés. Ce sont les mots de son avocat.
Alors,
pendant le procès.
Oui.
Ça vous est vraiment resté en travers de la gorge. C'est vrai que quand on le lit. On se dit que ces mots sont absolument ahurissants, je cite, hein, « Un enfant de 11 ans ne rapporte rien, à tout prendre, ce serait plutôt une bouche de moins à nourrir. »
Exactement. Alors, il y a plusieurs trucs que je n'ai pas digérés dans l'histoire. Il y a la manière dont l'infirmière m'a annoncé la mort de mon frère, la manière dont le docteur, le médecin, a annoncé la mort de mon frère à ma mère. C'est terrifiant. Il y a effectivement ce truc de l'avocat. Alors ça, là, c'est pas passé, clairement.
Et là, pour le coup, vous le racontez de façon très cinématographique, ouais. C'est-à-dire que vous approchez vraiment la focale de la bouche qui profère, ce qui pour vous est une horreur absolue.
Oui, absolument. Mais il y a une autre chose qui a été difficile alors, par rapport à ça, c'est que en fait, ma mère, quand elle lui a écrit cette lettre, elle espérait, il n'y a jamais eu de réponse à cette lettre, ma mère espérait que peut-être sa mère, à mère, allait lui écrire, et elle ne l'a jamais fait. On n'a jamais eu une lettre de condoléance, jamais une couronne de fleurs, enterrement, je ne sais pas, rien du tout. Mais le pire de tout, c'est que quand on est allé au procès 9 mois plus tard avec mon père, j'y suis allé avec mon père, puisque moi j'étais le premier témoin, et mon père, lui, voulait y aller, puisqu'il n'était pas là au moment de l'accident, donc il avait besoin de ça. Et en fait, on avait l'impression que ces gens nous étaient hostiles. C'est-à-dire qu'ils nous regardaient comme si c'était à cause de nous qu'ils étaient là. Ça a été difficile à passer. Voilà, ça vraiment, je l'ai mal vécu.
Cette violence dans votre dessin. Donc le chauffeur a été condamné à 2 mois ferme, 10 mois avec sursis simple, une amende de 1000 francs, soit 620 euros, et une suspension de permis pour 2 ans. Est-ce que cet album, au final, vous a fait du bien, Jean-Louis Tripp?
Écoutez, j'en sais rien. En tous les cas, il ne m'a pas fait de mal, ça c'est clair. J'étais pas mal avant de, comme je vous ai dit, j'avais pas pensé à le faire. Et moi,
45 ans
alors
après.
Alors je tiens à redire les choses, les 15 dernières années ont été les meilleures de ma vie. Donc moi, je suis quelqu'un d'heureux, je fais le métier qui me plaît, je vis à peu près comme je l'entends, j'ai pas de problème majeur, donc tout va bien, moi, dans ma vie. Donc c'est, voilà. Donc, je ne saurais pas dire si ça m'a fait du bien. J'espère que ça pourra faire du bien. Ce n'est pas pour ça que je l'ai fait non plus, mais j'espère que ça pourra faire du bien à d'autres personnes. Je pense que là, quand on aborde certains sujets, qu'on parle de certaines choses, ça peut autoriser d'autres personnes à parler en retour ou à vivre des émotions, à légitimer des émotions que des fois on n'ose pas avouer, etc., etc. Je sais que ça a été le cas pour Extase, ça beaucoup,
oui.
Beaucoup de témoignages dans ce sens. Si ça peut être le cas pour ça, et ça c'est les vertus de l'autobiographie. Alors pour le coup là, ça, de se mettre comme ça soi-même sur la balance, si j'ose dire, pas parce que ma vie est intéressante, mais parce qu'il y a quelque chose d'universel dans ce que je raconte. Et encore une fois, ça parle de la construction, de voilà, comment on se construit en tant qu'être humain.
Et l'album se referme sur la photo de ce petit garçon qui a 11 ans, donc aux cheveux mi-longs, qui a 11 ans éternellement et qui en aurait 57 aujourd'hui. Merci infiniment, Jean-Louis Tripp, d'être venu sur RFI évoquer Le Petit Frère. L'album est paru, je le rappelle, chez Casterman. Dans un instant, l'info sur RFI. À demain avec la chanteuse Irma, et vous m'en direz des nouvelles.